RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Dans cette édition en Syrie, la question de la place de l'islam dans la future constitution suscite des inquiétudes.
Le nouveau pouvoir veut lancer rapidement le processus d'écriture et l'hypothèse de l'inscription de la primauté de l'islam provoque des remous alors que le pays compte d'importantes minorités religieuses, notamment chrétiennes, reportage dans ce journal. Moins de 24 heures désormais avant l'application du cessez-le-feu à Gaza. Gaza et la libération des premiers otages israéliens et prisonniers palestiniens. L'accord trouvé avec le Hamas a été officiellement validé hier soir par le cabinet de sécurité israélien. Dans ce journal aussi, les dernières décisions de Joe Biden à la Maison-Blanche avant l'investiture lundi de Donald Trump. Au chapitre économique en RDC, il devait entrer en vigueur le 1er février. Le nouveau SMIG, salaire minimum, sera finalement reporté. Détail à Kinshasa à suivre. Et puis de la musique à la fin de ce journal. Nicolas Perra qu'on concert à Paris.
Un ballet de visites officielles en Syrie.
Oui, le Premier ministre du Qatar, les ministres français et allemands des Affaires étrangères ou encore la commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire d'urgence étaient à Damas ces derniers jours. Les nouvelles autorités syriennes veulent donner des gages aux pays arabes et aux pays occidentaux, montrer l'image d'un pays ouvert à l'heure où la question de la future constitution syrienne se pose. Dans quel délai sera-t-elle écrite? 2 à 3 ans, répond Ahmed al-Shara, dirigeant des facto de la Syrie, et l'hypothèse de l'inscription dans le texte de la primauté de l'islam fait débat. Les imams proches du nouveau pouvoir poussent pour que leur religion y ait une place importante dans un pays où vivait avant la guerre une importante communauté chrétienne dont une partie a fui le pays. Reportage de notre envoyé spécial à Idleb, Manon Chaplin.
La constitution Ahmed al-Shara, nouvel homme fort de Damas, en a récemment tracé les grandes lignes. Une conférence de dialogue national doit se tenir prochainement, à l'issue de laquelle un comité d'experts devra la rédiger. À Idlib, les imams proches d'Ayat Tahrir al-Sham, comme le cher Raled, espèrent que sera inscrite la primauté de l'islam.
Si un parti islamique dirige le pays, cela permettra de rendre justice à tout le monde. C'est un principe de notre religion. Même les alaouites pourront faire valoir leurs droits et vivre mieux que sous le régime d'Al-Assad. Al-Assad était contre la religion et nous avons vu ce que ça a donné. Des bombardements, du sang et des viols dans toute la Syrie.
Depuis son arrivée au pouvoir, Ahmed al-Shara envoie des messages rassurants. Répète son envie d'une Syrie unie, la perspective d'un islam sunnite dominant dans ce pays où 30% de la population est issue de minorités fait débat.
Il ne faut pas s'inquiéter. À Idlib, et depuis de nombreuses années, sous le régime d'Ayat Tahrir al-Sham, les druzes et les chrétiens sont proches de nous. Personne ne leur a adressé un seul mot de travers. Ce sont des preuves concrètes et pas seulement des paroles. Et nous, nous ne faisons pas confiance aux paroles, nous faisons confiance aux actes.
Ces dernières semaines, les représentants de Ayat Tahrir al-Sham ont rencontré des représentants druzes, chrétiens ou encore alaouites. Le 31 décembre, Ahmed al-Shara a même passé un bout de son réveillon à Alep avec le représentant du Vatican, Mario Zenari, de bon augure selon ce cardinal. Manon Chaplin, à Idlib, RFI.
En Israël, le cabinet de sécurité a donné le feu vert final à l'accord de cessez-le-feu à Gaza trouvé avec le Hamas.
Entrée en vigueur ce soir à minuit, la première phase de cet accord prévoit une trêve assortie de la libération de premiers otages israéliens et de prisonniers palestiniens. À l'instant, le ministère israélien de la Justice précise que le pays va libérer au total 737 prisonniers palestiniens en échange donc de premiers otages israéliens. Cet accord qui prévoit également l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, sans évoquer toutefois la question de l'avenir de l'UNRWA, l'agence de l'ONU chargée de gérer les réfugiés palestiniens. Alors que 2 lois votées par le Parlement israélien pour limiter le champ d'action de l'agence devraient entrer en vigueur le 30 janvier et que les rumeurs affirment qu'Israël négocie avec les Nations Unies pour transférer les tâches de l'UNRWA à d'autres agences, le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, s'exprimait hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, Karine Otten.
Le patron de l'UNRWA a affirmé au Conseil n'avoir encore reçu aucune directive du gouvernement israélien quant aux 2 lois votées par la Knesset. La première interdit toute activité de l'UNRWA dans l'État souverain d'Israël, c'est donc Jérusalem-Est qui est visée, et la deuxième proscrit toute communication entre des officiels du gouvernement israélien et ceux de l'UNRWA, ce qui rendra de facto les opérations sur le terrain encore moins fluides. Philippe Lazzarini.
Full implementation would be
Une mise en œuvre complète serait catastrophique. À Gaza, cela affaiblirait considérablement la réponse humanitaire internationale et cela aggraverait considérablement des conditions de vie déjà désastreuses et catastrophiques. Donc, démanteler l'UNRWA maintenant, en dehors d'un processus politique, porterait atteinte à l'accord de cesser le feu et saboterait le redressement et la transition politique de Gaza.
L'ONU juge impossible la requête israélienne de transférer les tâches accomplies par les 13 000 employés à Gaza à d'autres agences. 650 000 enfants sont par exemple scolarisés dans les établissements tenus par l'UNRWA. La seule solution serait de transférer ces services à un État fonctionnel, ce qui replace la solution à deux États au cœur du débat. Karine Auton, New York, RFI.
Ce sera lundi à suivre sur RFI, édition spéciale pour la journée d'investiture de Donald Trump aux États-Unis.
Et la journée s'annonce glaciale, moins 12 degrés lundi matin à Washington, moins 6 à midi, vent glacial au programme. Donald Trump prêtera donc serment à l'intérieur du Capitole où aura lieu l'investiture, une première en 40 ans. En attendant, Joe Biden, lui, vit ses dernières heures à la Maison-Blanche et les dernières décisions s'enchaînent. Guillaume Nodin.
Des médicaments sur la liste des produits dont les prix pourront être négociés par les assurances santé, comme le célèbre et très rentable Ozempic pour lutter contre l'obésité, des grâces par milliers pour les crimes non violents liés à la drogue, Joe Biden soigne les symboles libéraux alors qu'il signe ses derniers décrets. Il envisage aussi toujours d'accorder de larges grâces préventives à des gens que l'équipe Trump considère comme des ennemis politiques et a dans l'idée de poursuivre. On pense aux membres de la commission spéciale du 6 janvier ou au docteur Anthony Fauci, aux responsabilités pendant la pandémie de Covid-19 et qui a promu le confinement et la vaccination. Cela vient s'ajouter aux décisions prises depuis plusieurs semaines de protéger un certain nombre de sites naturels et surtout d'interdire les nouveaux forages en mer, une mesure qui va directement à l'encontre du programme de Donald Trump qui consiste à favoriser dès le premier jour l'exploitation des énergies fossiles. Son équipe a déjà prévenu que cette décision serait rapidement annulée. En revanche, ce sera plus difficile pour les grasses car revenir dessus enclencherait à coup sûr des batailles judiciaires à l'issue incertaine. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et pas d'annonce en revanche de Joe Biden concernant la situation de TikTok aux États-Unis. Nous serons contraints de fermer le 19 janvier, autrement dit demain, annonce le réseau social, à moins que le gouvernement de Joe Biden ne garantisse la non-application de la loi qui interdit la plateforme aux États-Unis, sauf si son propriétaire chinois accepte de la vendre. Voilà des mois que TikTok se bat contre cette loi adoptée en mars dernier par le Congrès. La Cour suprême américaine a refusé hier de suspendre cette loi. Maison-Blanche estime que c'est désormais à l'équipe de Donald Trump de trancher, le président élu qui dit avoir besoin de temps pour statuer sur le sort de TikTok.
Et qui succédera à Justin Trudeau à la tête du Parti libéral canadien ?
Le remplaçant ou la remplaçante du Premier ministre démissionnaire sera connu le 9 mars prochain parmi les personnalités en bonne position pour lui succéder. Son ancienne ministre des Finances, Chrystia Freeland, dont la démission avait précipité la chute de l'actuel chef de gouvernement, Anastasia Becciu.
Elle avait critiqué la stratégie de Justin Trudeau et sa faiblesse face aux menaces de Donald Trump d'instaurer des droits de douane de 25% au Canada. Le Premier ministre avait tenté de l'écarter, mais elle avait choisi de démissionner avec fracas du ministère des Finances, entraînant le gouvernement canadien dans une crise sans précédent. Dans une lettre publiée par Le Devoir et Toronto Star, Chrystia Freeland annonce qu'elle se lance dans la course à la succession de Justin Trudeau. « Nous aimons notre pays autant que vous aimez le vôtre. Si vous nous frappez, nous allons frapper en retour », écrit-elle à l'adresse de la nouvelle administration américaine, appelant à répondre dollar pour dollar. Elle rappelle que le Canada est le plus grand marché d'exportation des États-Unis, plus important que la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et la France réunis. L'ancienne journaliste de 56 ans, anglophone, aux origines ukrainiennes, est détestée par Donald Trump qui la qualifie de femme méchante. Il garde un mauvais souvenir de l'époque où l'ex-ministre canadienne avait renégocié l'accord de libre-échange nord-américain en 2018. Chrystia Freeland se dit convaincue de pouvoir encore une fois parvenir à un bon accord. Elle lancera officiellement sa campagne ce dimanche, la veille du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Anastasia Becciu.
En République démocratique du Congo, l'espoir d'une hausse du salaire minimum s'envole.
Sur décision du ministre du Travail, le nouveau SMIC, passé de 2,5 à 5 dollars américains par jour, devait entrer en vigueur à partir du 1er février. Mais la première ministre, Judith Suminois, s'y oppose finalement. Précision à Kinshasa avec Pascal Moulégois.
Les fonctionnaires, agents de l'État et travailleurs du secteur privé se frottaient déjà les mains. Leur salaire allait doubler pour la plupart d'eux le mois prochain. Mais les refus de la première ministre, Judith Suminwa, reposent d'abord sur la forme. Elle souligne que son ministre du Travail ne peut décider unilatéralement d'une telle mesure et que seule la primature peut signer un tel décret. Et sur le fond, la chef du gouvernement affirme que ni les syndicats ni les conseils nationaux du travail n'ont été sollicités par les ministres avant la signature de son arrêté. Les patronats congolais des entreprises avaient déjà critiqué cette mesure, allant jusqu'à solliciter du ministre une harmonisation des points de vue. Les ministres qui avaient pourtant assuré à RFI que la décision avait été prise à la suite d'un dialogue social engagé en octobre dernier avec les organisations patronales et les syndicats des travailleurs. L'objectif, selon lui, était de réduire l'écart croissant entre les salaires minimums et les coûts de la vie. La première ministre dit attendre des éléments saillants avant de signer un décret relatif au SMIC. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
En plus bref, au Niger, la chaîne privée Canal 3 suspendue pour une durée d'un mois. Son rédacteur en chef, Seyni Amadou, voit par ailleurs sa carte de presse suspendue pour 3 mois. Décision du ministre nigérien de la communication qui fait suite à la diffusion par la chaîne d'un classement des membres du gouvernement en fonction de leur performance en 2024. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger dénonce, je cite, une décision très grave pour la liberté de la presse.
Et puis Jeanne, on termine en musique.
Avec un auteur de succès incontournable des années 70 et 80 en France, So Far Away From LA, Mon Père, Le Vin Me Saoule, Nicolas Perrac, se produit demain à Paris, spectacle intitulé Les Acoustiques Improvisées, Edmond Sadaka.
C'est en 1975 que la carrière de Nicolas Perrac a explosé avec cette chanson qui a beaucoup marqué les esprits.
So Far Away From LA. So far ago from Frisco.
So Far Away, c'est ma main droite et ma main gauche. C'est cette chanson qui a déterminé le cap. J'ai mis 1 an à faire le refrain. Quand je la fais en ce moment, guitare-voix, elle n'a pas pris une ride.
Avec 23 albums à son actif, Nicolas Perrac, 75 ans aujourd'hui, a publié l'an dernier D'ici ou d'ailleurs, un album de 22 titres où il a invité notamment les acteurs François Berléand et François Morel. Sur scène, à l'Européen, il se produira accompagné de sa seule guitare, formule qui lui permet de passer en revue aussi bien les chansons nouvelles que celles des tout début.
Quand on est tout seul avec une guitare, il n'y a rien qui date une chanson. Parce que qu'est-ce qui date une chanson? C'est l'arrangement, c'est le son. Donc on peut faire un panaché de chansons anciennes et récentes.
Il y a un peu plus de 2 ans, Nicolas Perrac a publié son 4e roman intitulé « Sans oublier qu'un jour on s'est aimé », l'histoire d'un amour d'été caché, des hasards de la vie qui font que 2 êtres vont finir par se retrouver.
Et d'ailleurs, extrait de l'album du même nom de Nicolas Perrac, sorti l'an dernier. C'était Edmond Sadaka.
Et c'était Jeanne Bartoli pour le journal. Merci beaucoup. Samedi 18 janvier 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et l'approbation par le gouvernement israélien de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas pour une trêve dans les combats dans la bande de Gaza et la libération progressive des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Les bombardements continuent à Gaza, mais avec la perspective d'une trêve, les déplacés de la guerre se préparent à rentrer chez eux, notamment dans le nord de l'enclave. On en parle à 6h, temps universel avec Samy Bourlifa. Et ce cessez-le-feu fragile, que permet-il d'espérer sur le plan humanitaire? Quels sont les besoins, les urgences, quelles conditions d'accès les ONG demandent-elles aujourd'hui dans l'enclave? On en parle avec notre invité tout à l'heure, le directeur de l'ONG Supernovae, Alexandre Chatillon. Au sommaire également ce matin, la loi qui pourrait aboutir à l'interdiction de TikTok aux États-Unis, validée hier par la Cour suprême, et le réseau social chinois qui menace de fermer dans le pays dès demain, faute de garantie. On parle aussi de cette visite d'État qui s'est terminée hier, celle de João Lourenço, le président angolais à Paris. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, est avec nous ce matin sur RFI, au micro de Pierre Firsion, 5h14 en temps universel. Et pour commencer, cap à nouveau sur les États-Unis, à 2 jours du retour au pouvoir de Donald Trump, une fois son investiture passée lundi, le président républicain promet d'aller vite sur plusieurs dossiers, et notamment celui de l'immigration, avec la promesse de lancer une campagne d'expulsion à la vitesse de la lumière, comme l'a formulé l'un de ses principaux conseillers. Donald Trump s'est donné pour objectif de renvoyer au pays tous les immigrés en situation irrégulière, des millions de personnes pourraient être concernées. Mais la résistance s'organise par endroits, y compris sur le plan institutionnel. La Californie, grand état démocrate, et sa plus grande ville, Los Angeles, ont déjà prévenu qu'elles ne coopéreraient pas et qu'elles feraient de leur mieux pour protéger les sans-papiers. Ils sont 1 800 000 en Californie et à Los Angeles. C'est un reportage de Loïc Piala.
Maria garde un œil sur son adorable petit-fils de 2 ans. Elle fait partie des abuelitas, ses grand-mères sans papier et sans histoire, loin du stéréotype du dangereux migrant. Quand Donald Trump parle d'expulsion de masse, il ne cible pas que les criminels endurcis.
Je n'ai jamais eu de problème avec la loi. J'ai toujours essayé de bien me comporter, justement pour les éviter.
Arrivée il y a 31 ans du Chili avec un visa touriste, Maria attend sa régularisation. La procédure est bien enclenchée, mais la fermeté affichée par Trump sur l'immigration pourrait tout changer. Il n'exclut pas d'expulser des familles entières.
Il dit tellement de choses qu'on ne sait plus que croire. Il dit que oui, il va expulser tout le monde, puis non. Donc on vit dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va faire tout ce qu'il annonce? Est-ce qu'il aura le pouvoir de faire tout ce qu'il annonce? On vit tous avec ces doutes.
Sa fille Jennifer est une dreamer, une protection spéciale créée par l'administration Obama pour les sans-papiers entrés enfants aux États-Unis, un statut lui aussi incertain.
Il n'y a rien de nouveau avec ce statut. On le renouvelle encore et encore, mais on ne sait pas jusqu'à quand on pourra le faire. Trump veut apparemment s'en débarrasser, mais ce serait pour nous trouver une solution permanente. On n'a pas vraiment plus de détails, donc on attend de voir ce qui va se décider.
Dans leur situation, la chance de Maria et Jennifer, c'est qu'elles vivent en Californie, un bastion de la résistance anti-Trump. 8 décembre, des centaines de personnes ont défilé dans le centre de Los Angeles avec des pancartes clamant en espagnol « Les immigrés sont bienvenus ». Le conseil municipal a formalisé le statut de ville sanctuaire de Los Angeles. Jorge Mario Cabrera travaille avec Chirla, une association d'aide aux migrants.
Ce qu'une ville sanctuaire veut dire, c'est que Los Angeles ne mettra pas d'argent, de personnel ou de ressources à disposition des agents fédéraux pour mener leur expulsion. C'est très simple, mais ça aidera à éviter, ou en tout cas aidera à ralentir, le travail de ces agents à Los Angeles.
Roxanne Hogg, porte-parole du Parti républicain de Los Angeles, dénonce de vaines gesticulations.
L'immigration relève de la compétence du gouvernement, pas d'un conseil municipal. Est-ce qu'on vit dans un état de droit ou pas? C'est très décevant de voir des élus censés défendre la loi faire exactement le contraire. Ils préfèrent qu'on parle d'eux pour montrer qu'ils s'opposent à Donald Trump.
En 2024, l'administration Biden a expulsé 270 000 personnes. Donald Trump vise 5 fois plus chaque année. Loïc Piala, Los Angeles RFI.
Et pour rappel, en 2017, Donald Trump avait déjà promis 3 millions d'expulsions dès le début de son premier mandat. On en comptait finalement 1,5 million à la fin de ses 4 ans au pouvoir. 6h18 à Paris. Et ce retour de Trump à la Maison-Blanche est aussi à la une de Jeune Afrique ce week-end. On ouvre, comme chaque semaine, les pages du magazine avec son directeur de la rédaction, François Soudan. Il est au téléphone de Catherine Potet.
L'Afrique se prépare au retour de l'ouragan Trump. C'est le titre à la une de Jeune Afrique cette semaine. C'est en effet lundi que le nouveau président américain sera officiellement investi. Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? Le monde entier observera avec attention ses premières annonces et décisions. Et ce sera bien sûr le cas en Afrique. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Dans quel état d'esprit le continent appréhende-t-il ce retour de Donald Trump? Vous parlez d'une certaine perplexité comme d'un sentiment dominant.
Oui, alors d'abord soyons réalistes, Catherine, le scepticisme à l'égard de Trump est beaucoup moins palpable en Afrique qu'en Europe, par exemple. Cela dit, c'est difficile de ne pas accueillir avec une certaine perplexité, c'est le mot, effectivement, le retour aux affaires d'un personnage aussi imprévisible, pour qui tout est à vendre ou à négocier, et qui use en permanence du langage de la contrainte, de la pression, du rapport de force. Alors, s'ajoute à cela, concernant l'Afrique, un ADN fait de discrimination, de mépris, d'islamophobie qui n'a absolument pas varié. Certes, lors de sa campagne électorale, Trump n'a pas répété son effarante expression de pays de merde, mais il a parlé de pays infesté, ce qui est presque pire. Et il a relayé toute une série de fake news racistes, comme cette pseudo-conspiration selon laquelle le Congo, sans préciser lequel d'ailleurs, viderait ses prisons pour permettre à des criminels violents de venir aux États-Unis. Alors cela, les Africains le savent. et ils ne se font, si je puis dire, aucune illusion sur le personnage. Mais ce qui peut vraiment poser problème, c'est la politique commerciale ultra-protectionniste et anti-chinoise du président élu. Est-ce qu'il mettra fin, par exemple, à l'accord de libre-échange à Goa qui sera en attente de renouvellement à partir de septembre? Est-ce que les pays qui entretiennent des liens économiques étroits avec la Chine subiront des représailles? Comment éviter que la promesse de Trump d'accélérer la production d'énergie fossile aux États-Unis ne menace directement les projets pétroliers et gaziers africains? Sans compter, évidemment, Catherine, les graves conséquences qu'auront sur l'environnement et le climat le retrait annoncé des États-Unis des accords de Paris.
Alors, dans ces conditions, François Soudan, il y aura-t-il tout de même des gagnants en Afrique dans le cadre du retour de Trump au pouvoir ?
Oui, le Maroc, incontestablement, dans la reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara occidental, sera sans doute conforté par l'ouverture d'un consulat américain à Dakar. Gagnant aussi, à condition qu'il sache négocier, les pays producteurs de minerais stratégiques et de terres rares, qui sont une véritable obsession pour Donald Trump et Elon Musk, comme la République démocratique du Congo, la Guinée, l'Afrique du Sud et quelques autres. Et puis Catherine, paradoxalement, et même si elles sont soutenues par la Russie, les juntes sahéliennes de l'AES pourraient y trouver leur compte. Vous savez, entre un président Trump pour qui ni l'histoire, ni le droit, ni les valeurs démocratiques ne comptent réellement, et des régimes militaires souverainistes qui estiment que l'Afrique peut fort bien s'accommoder de la restriction des droits civiques et des libertés individuelles et qui considèrent la démocratie électorale comme un piège, il y a des similitudes, je dirais, idéologiques et des terrains d'entente que l'on ne devrait pas tarder à voir apparaître, Catherine.
Dernier point, François Soudan, quel profil pourrait incarner la politique africaine de l'administration Trump ? Vous avez identifié deux personnalités.
Oui, il y a deux postes importants pour la politique africaine des États-Unis, celui de secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, département d'État, et celui de directeur Afrique au Conseil national de sécurité, qui dépend de la Maison-Blanche. Alors, pour le poste de secrétaire d'État adjoint, le nom le plus souvent cité est celui de Peter Pham, qui est une vieille connaissance, si je puis dire, un ancien envoyé spécial de Trump au Sahel dans les Grands Lacs, avec une casquette business assez voyante, puisqu'il est administrateur d'entreprises minières opérant en Guinée, en Afrique du Sud ou au Burundi. Et pour le Conseil national de sécurité, celui qui tient la corde, c'est Joe Foltz, un ancien cadre de l'USAID, passé par la sous-commission Afrique de la Chambre des représentants, spécialisé dans le développement, l'agriculture et l'environnement. S'il est confirmé à ce poste, Joe Foltz, Catherine, a un petit défaut qu'il devra vite gommer, il n'est pas climato-sceptique.
Merci François Soudan, cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
François Soudan de Jeune Afrique avec Catherine Potet. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Les scientifiques s'intéressent à nos oreilles. Deux études complémentaires parues les 9 et 10 janvier dans les revues Nature et Science révèlent que les oreilles des mammifères sont faites d'un cartilage très particulier que l'on ne retrouve que dans les branchies des poissons.
Inattendu, oui, et même inouï, car l'origine de l'apparition et de l'évolution des oreilles externes restait jusqu'à présent un mystère. Rappelons que seuls les mammifères sont dotés de ces deux organes proéminents, complexes et flexibles, qu'on appelle oreilles externes. Essentielles pour entendre et nous entendre, être alertés d'un danger, mais aussi pour nous humains, pour écouter de la musique ou la radio. Les oreilles, chez les chiens par exemple, servent aussi selon qu'elles sont dressées ou abaissées, à signaler leur humeur. Chez les chauves-souris, leurs oreilles antennes extraordinairement sophistiquées leur permettent d'écolocaliser leur proie, tandis que les grandes oreilles des éléphants leur servent aussi d'éventail pendant les fortes chaleurs. Polyvalentes les oreilles et surtout étonnamment flexibles. C'est en étudiant des oreilles de souris que le biologiste du développement Maxime Plicius et ses collègues de l'Université de Californie Irvine ont découvert que leur cartilage est totalement différent des autres cartilages du corps, tous très secs et cassants. Les cellules qui composent le cartilage des oreilles des souris, comme des humains, sont pleines de lipides. Pour vous donner une image, c'est un peu comme un film à bulles. Chaque cellule du cartilage des oreilles étant remplie de lipides qui s'empilent, s'imbriquent, un peu comme des briques de Lego, ce qui assure leur flexibilité. Les chercheurs de l'Université de Californie Irvine ont également découvert dans leur étude, parue le 10 janvier dans la revue Science, que l'on ne retrouve ce genre de cartilage ni chez les reptiles ni chez les oiseaux, animaux qui n'ont pas d'oreilles externes. Il s'agirait donc d'un type de cartilage jusqu'alors inconnu qui pourrait aussi expliquer l'audition exceptionnelle des mammifères.
On peut parler d'un nouveau champ de recherche autour de ce cartilage spécifique de l'oreille externe ?
Exactement, d'autant que jusqu'à présent, le cartilage ne se fossilisant pas, il était impossible d'étudier sur le temps long de l'évolution le développement des organes cartilagineux. Quand et comment les oreilles externes se sont développées chez les mammifères restait un mystère que les outils de la génétique permettent aujourd'hui d'éclairer en les étudiant au niveau embryonnaire. C'est ainsi que d'autres biologistes du développement de l'Université de Californie du Sud, qui étudiaient la formation des branchies chez les poissons zèbres, ont mis en évidence un type de cartilage également inconnu et spécifique. Et en comparant le cartilage des branchies du poisson zèbre et celui des oreilles externes des mammifères, le biologiste G. Gage Crump et ses collègues ont découvert qu'ils partageaient des séquences entières d'ADN et que ce sont bien les mêmes gènes exprimés différemment avec plus ou moins de lipides dans leurs cellules qui produisent les branchies chez les poissons et les oreilles externes chez les mammifères. La conclusion de leur étude parue le 9 janvier dans la revue Nature ouvre d'étonnantes perspectives, notamment pour réparer d'autres cartilages du visage et du cou, grâce donc à nos oreilles, qui sont, je cite cette étude, le reste évolutif des tout premiers cartilages du vivant, à bon entendeur.
Merci Caroline Lachowski. Bienvenue dans le game, comme chaque samedi. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, vous abordez un sujet essentiel, Jennifer, celui de l'écologie dans le monde des jeux vidéo.
Et oui, le jeu vidéo, au-delà d'être un loisir incroyable, a aussi un impact environnemental. L'industrie du jeu vidéo représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars, mais cela a un coût écologique. La production des consoles et PC repose sur des matériaux rares, souvent extraits dans des conditions qui nuisent à l'environnement. L'électricité consommée par les serveurs du cloud gaming ou les longues sessions de jeu contribue également à l'empreinte de carbone. Et enfin, le numérique n'est pas immatériel puisque chaque téléchargement de jeu ou mise à jour nécessite des serveurs qui tournent en permanence. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut compter en moyenne 5 kW par an pour un joueur occasionnel avec une console peu énergivore, jusqu'à plus de 1000 kW par an pour un passionné muni d'une console dernier cri. Multipliez cela par des millions de joueurs et vous obtenez une quantité d'énergie colossale.
Heureusement, plusieurs acteurs de l'industrie ont décidé de s'impliquer.
Oui, Microsoft, avec son programme Carbone Négative, prévoit que ses consoles Xbox soient neutres en carbone d'ici 2030 et cela passe par des chaînes de production plus propres et des emballages entièrement recyclables. Sony aussi, avec son initiative Playing for the Planet, travaille à rendre les PlayStation moins énergivores en mode veille, tout en sensibilisant les joueurs à travers leurs jeux. Aujourd'hui, on peut aussi afficher des messages écologiques dans les jeux, comme c'est le cas pour Beyond Blue ou encore Endling Extension is Forever, qui nous amène à réfléchir sur la préservation des océans ou des espèces animales. Ubisoft s'est également associé à des organisations environnementales pour inclure des éléments éducatifs sur le changement climatique dans des jeux comme Riders Republic. Des serveurs plus verts sont proposés par des géants comme Google Stadia ou encore Microsoft qui investissent dans des data centers alimentés par des énergies renouvelables. Tout cela permet de réduire l'impact du cloud gaming, bien qu'il reste encore du chemin à parcourir.
Et nous, en tant que joueurs, Jennifer, comment pouvons-nous contribuer ?
Eh bien, voici quelques idées. Tout d'abord, pensez à optimiser votre consommation d'énergie. Activez le mode veille éco de vos consoles. Ces modes consomment jusqu'à 75% d'énergie en moins que les modes classiques. Éteignez aussi vos appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés, plutôt que de les laisser en veille prolongée. Privilégiez aussi les versions numériques, mais avec modération. Les versions physiques impliquent un transport des matériaux, mais les versions numériques demandent des serveurs gourmands en énergie. Choisissez selon vos besoins et téléchargez uniquement les jeux auxquels vous êtes sûr de jouer. Troisième conseil, eh bien, rejoignez des communautés engagées. Que ce soit pour planter des arbres ou soutenir des organisations via des streams caritatifs, ces communautés montrent que le gaming peut devenir une force positive pour la planète. L'industrie du jeu vidéo commence à comprendre son rôle dans la transition écologique, mais ce n'est que le début. Avec des innovations comme les énergies renouvelables pour alimenter les serveurs ou des consoles conçues pour durer plus longtemps, le futur peut être prometteur.
Jennifer Lufaux, bienvenue dans le game. Merci pour tous ces conseils. Et sur la radio du monde, il est bientôt 5h30 en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez et restez avec nous. L'info revient dans moins d'une minute. A tout de suite.
RFI à Paris, 89 FM. Franceville, 104 FM.
Afrique, mémoire d'un continent.
avec Elgas.
Comment vivaient les Africains il y a plus de 12 000 ans? Les archéologues ont dragué la terre et l'ont confessé. Et les découvertes sont prodigieuses. Naissance de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, de l'urbanisation et de l'organisation sociale. Je vous embarque pour un tour d'Afrique complet d'une grande épopée.
Afrique, mémoire d'un continent avec Elgas.
Tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI.